Science en question par Étienne Klein. Aujourd'hui, Dune, science-fiction radicale ou simple préfiguration. Dune, le célèbre roman de Frank Herbert qui date de 1965, nous projette dans un futur distant de près de 20 000 ans, où l'humanité se trouve répartie au sein d'un empire galactique englobant plusieurs milliers de planètes. Dune est le surnom de l'une de ces planètes, qui a la particularité d'être la source unique de la substance la plus précieuse de l'Empire, baptisée l'épice. Il s'agit d'une drogue qui prolonge la vie humaine, immunise contre les poisons et procure des facultés mentales surhumaines. Parce qu'elle seule rend possible la navigation interplanétaire, l'épice est la base indispensable de toute l'économie de ce vaste petit monde. Sans elle, l'Empire s'effriterait. Sa récolte et son contrôle sont donc des enjeux capitaux, prétexte à de belles bagarres entre tribus humanoïdes. Au-delà de l'histoire qu'il raconte, ce roman de science-fiction peut se lire comme une immense fresque traitant d'écologie, de politique, de religion, de psychologie et même de métaphysique. Il pose également par une sorte d'effet miroir la question de la survie à long terme de l'humanité et interroge son rapport aux technologies et donc aussi le nôtre. Mais qu'est-ce qui, dans Dune, est plausible ? Qu'est-ce qui est purement fictionnel, voire absurde? Et qu'est-ce qui fait directement écho à notre situation présente? Pour répondre à ces questions, toute l'équipe de Science en question s'est déplacée à Nantes, au Festival des Utopiales, où nous nous trouvons devant un public nombreux que je salue et que je remercie pour son accueil chaleureux. Merci pour ce tonnerre d'applaudissements. Et évidemment, nous sommes en compagnie de mes trois invités, parmi lequel, pour commencer, Roland Lehoucq, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes astrophysicien, vous avez dirigé l'ouvrage collectif qui s'intitule « Dune, exploration scientifique et culturelle d'une planète-univers » et vous êtes évidemment le président des Utopiales depuis 2012, je crois.
2012, exactement.
Alors pourquoi Dune ? Pourquoi est-ce que vous avez été fasciné par ce roman qui est l'un des plus vendus de l'histoire de l'ASF ?
Alors, ça remonte comme souvent à l'adolescence, hein, où j'ai découvert la science-fiction en piochant dans les livres de la bibliothèque paternelle. Et donc, je suis tombé sur Dune, évidemment, avec une illustration. Alors, c'était à l'époque dans une collection en poche, Press Pocket, où il y avait une illustration d'un Fremen, un personnage d'un des peuples qui sont dans le livre univers de Dune, et qui avait les yeux bleus, donc une illustration très énigmatique. Et puis, en lisant le livre, ben, je l'ai trouvé à mon goût, enfin, à un goût d'adolescent, mais un livre très riche. J'ai compris après, plus tard, pourquoi il était riche, quel intérêt on pouvait y trouver. Vous avez cité les intérêts écologiques, les intérêts politiques, et puis aussi la richesse, finalement, des interactions entre les personnages. Et donc, ça a resté un livre que j'ai lu, je dirais, une dizaine de fois depuis l'adolescence.
Bien. Notre deuxième invité est Vincent Montand, philosophe, spécialiste de la philosophie des techniques. Même question, pourquoi Dune ?
Alors, je suis né en Algérie, et quand j'étais au début de mon adolescence, j'ai lu Dune avec l'impression de découvrir un imaginaire qui permettait la rencontre en particulier avec la civilisation arabo-musulmane. C'était un des aspects. Ensuite, quand j'y suis, et c'est un des aspects qui n'est jamais rendu par les adaptations hollywoodiennes. Donc, ça compte pour moi de le mentionner. Et après, chaque fois que j'y suis revenu, y compris avec des interrogations de philosophes des techniques, j'ai trouvé que ce livre qui décrit tout un univers était justement très riche et fécond et permettait de faire des expériences de pensée vraiment intéressantes.
Notre troisième invité, Joëlle Vintrebert, vous êtes écrivaine, autrice de science-fiction. Alors, je n'ai rien lu de vous à propos de Dune, mais je sais que c'est un ouvrage qui vous intéresse.
À propos de Dune, j'ai collaboré au MOOC Dune. Voilà. J'ai illustré le personnage de Jessica. Donc moi, ma découverte de Dune, j'avais 20 ans quand j'ai lu Dune. Ça avait été une lecture évidemment très naïve, mais une grande claque. Et à la relecture donc récente à propos du MOOC, donc j'ai relu le livre. Je trouve que c'est un livre qui a quand même vraiment bien vieilli. Et notamment ce personnage de Jessica que j'avais voulu traiter pour le MOOC parce qu'elle me paraissait la plus disons, le personnage le plus intéressant et dont je pense a fortiori, enfin a posteriori plutôt, qu'il a vraiment bien vieilli.
Est-ce qu'on peut dire que c'est, quelle est la première femme forte de la SF ?
Je ne sais pas si on peut dire que c'est la première femme forte, mais en tout cas... c'est.
Je l'ai lu dans le livre dirigé par Roland Lehoucq.
Que ça serait la première, oui. Vraiment ?
Elle est forte, en tout cas.
Oui, elle est forte.
Elle est très puissante. Oui, et on a dans ce livre, les femmes du Bene Gesserit, les sœurs du Bene Gesserit, ce sont des femmes puissantes. Donc c'était intéressant pour moi, jeune lectrice et déjà un petit peu autrice, de découvrir ces femmes puissantes dans la science-fiction. Parce qu'on ne peut pas dire que la science-fiction, à l'époque où a été publiée Dune, regorgeait de personnages féministes.
Roland Lehoucq, vous êtes un astrophysicien, je l'ai dit, mais vous êtes passionné par les planètes, les exoplanètes, les voyages interplanétaires, les replis dans l'espace-temps. Et vous êtes aussi, je l'ai dit... le président du Festival des Utopiales. Est-ce que vous connaissez l'anagramme du Festival des Utopiales ?
Ah non, alors voilà une grande première.
Le jour, ouais. Enfin, vous allez savoir tout de suite, mais quand vous la connaîtrez, et elle m'a été révélée par Olivier Garcia, vous comprendrez pourquoi vous êtes président.
Ah.
Et que personne d'autre ne peut être président à votre place. Vous n'êtes pas menacé dans ce poste.
Ah bon, ça me va, ça me rassure un peu sur mon futur. C'est bien, c'est toujours intéressant d'avoir une idée de son futur. On veut avoir des idées sur son futur en général.
Alors je vous la donne. Le Festival des Utopiales a pour anagramme fou de vétille spatiale.
Bon.
Je suis désolé pour vétille, hein, c'est pas très glorieux, mais bon, il n'y a pas le choix, c'est le hasard orthographique. Alors j'avais une question pour vous, Roland, pour commencer. Quelle a été la genèse de ce roman, Dune, publié en 1965, après avoir été publié sous forme de feuilleton ?
Oui, il a d'abord été publié sous forme de feuilleton, enfin, sous forme de feuilleton, avant de devenir un roman complet. Et en fait, Frank Herbert a trouvé son inspiration, qui a aussi œuvré comme journaliste, et qui s'est intéressé à une question qui était le mouvement des dunes de sable dans l'Oregon. L'idée que les dunes ne sont pas des entités figées d'une certaine façon, qu'elles se déplacent à l'orgré du vent, mais aussi au gré des transformations que les humains imposent dans leur environnement. Il y a une manière de désertification, une manière de déplacement, de perte de végétaux. Et Elles font des vagues, oui, on pourrait dire ça comme ça. Et que il s'est intéressé à cette question et ça lui a donné, semble-t-il, l'idée de travailler sur un monde, une planète Arrakis, qui est une planète presque entièrement couverte de sable, une planète désertique, très chaude. Et donc, ça serait l'origine de la planète qui est l'emblème, le cœur du roman de Frank Herbert.
Et pourquoi est-ce que cette planète a deux noms, Arrakis et Dune ?
Eh bien, Dune, parce qu'elle a le nom de ce qu'elle représente. Enfin, c'est un nom qui porte information sur ce qu'elle, sur son paysage principal, des grandes dunes de sable. Et Arrakis, qui est le nom vernaculaire, que le nom donné par les Fremen à leur planète, c'est le nom de la planète par ceux qui l'habitent.
Mais est-ce que cette planète, Roland Lehoucq, a des chances d'exister ? Je veux dire, est-ce qu'il existe possiblement une exoplanète qui ressemble à Dune ?
Eh bien, c'est possible, parce que, enfin, on n'en sait rien, parce qu'on a assez peu d'informations sur les exoplanètes. On en a bien sur leurs orbites, on en a quelquefois sur la présence d'une atmosphère, pas encore tout à fait sur leur composition atmosphérique, mais qu'une planète soit désertique, parce que, par exemple, elle serait trop proche de son soleil et très échauffée, elle est désertique et habitable. Des humains, enfin des êtres humains peuvent vivre ou des êtres vivants peuvent survivre à la surface d'Arrakis. Pourquoi pas ? Il faut simplement qu'il y ait une adaptation entre l'étoile, la planète, la distance qui sépare la planète de l'étoile et puis l'atmosphère qu'elle porte. Dans le principe, il n'y a pas d'impossibilité. Dans le système solaire, on a des planètes désertiques. Par exemple, la planète Mars, bien plus froide que la planète Dune, hein, et sans atmosphère, ou disons quasiment sans atmosphère, une atmosphère extrêmement ténue, elle est beaucoup plus froide. Sa température moyenne de Mars est moins 62 degrés Celsius. Alors qu'on apprend, ça c'est dans les petits appendices, parce que Herbert s'est plu à écrire des appendices sur l'écologie de Dune, un appendice sur les mots qu'il emploie, les mots qu'il forge, ce qu'il appelle lexique de l'impérium. Et donc dans l'écologie de Dune, il nous apprend que la température par certains endroits peut atteindre 77 degrés Celsius, qui est une température considérable, et que la température moyenne semble être de l'ordre de 25 degrés Celsius. Donc quelque chose qui est 25 degrés Celsius, ça a été la température moyenne de la Terre dans des époques anciennes du passé où la Terre a pu être plus chaude qu'elle n'est actuellement.
Donc, si j'ai bien compris le roman, l'étoile autour de laquelle orbite Dune, qui s'appelle Canopus,
oui,
ne ressemble pas du tout à notre Soleil.
Non, alors, pour le cas de Dune, Frank Herbert a choisi de la placer autour d'une étoile réelle, Canopus, hein, qui est une étoile qu'on ne voit que dans l'hémisphère sud, une étoile réelle, mais dont on sait des choses. Et cette étoile, on en sait une chose, c'est qu'elle est plus grosse, plus chaude, et donc beaucoup plus brillante que le Soleil. Sa luminosité est à peu près 15 000 fois celle du Soleil. Donc si l'on voulait placer la Terre, on prend la Terre telle qu'elle est, on la place autour de Canopus, ou sinon on remplace le Soleil par Canopus, par la pensée, il faudrait placer la Terre environ entre 100 et 110 fois plus loin qu'elle ne l'est actuellement du Soleil, pour que, autour de Canopus, elle en reçoive la même quantité d'énergie qu'elle reçoit actuellement du Soleil. Donc il faudrait déjà considérablement éloigner la Terre de Canopus, ou la Terre, ou une planète, disons, de type terrestre, pour qu'elle soit dans les conditions terrestres. Alors, dans le cas de Arrakis, on peut discuter un petit peu, elle est peut-être un petit peu plus proche, de sorte qu'elle soit un peu chaude, mais essentiellement, il n'y a pas d'impossibilité, effectivement, d'être autour de Canopus. Un détail, c'est que Canopus, qui est une planète beaucoup plus grosse, beaucoup plus massive, en particulier que le Soleil, est une planète qui aura une durée de vie beaucoup plus courte. Et que, oui, une planète, une étoile, bien sûr. Vincent me soufflait que je disais planète pour Canopus. Que l'étoile Canopus est beaucoup plus massive que le Soleil, aura une durée de vie beaucoup plus courte. Si courte qu'il semble difficile qu'une planète puisse ait le temps d'évoluer pour y accueillir une vie possible. Sur Terre, la vie a mis plusieurs centaines de millions d'années pour apparaître. La durée de vie d'une étoile comme Canopus, c'est quelque chose comme quelques millions, peut-être une dizaine de millions d'années.
Donc probablement la vie a été importée.
Alors voilà, ensuite on peut jouer, nous aussi, à partir de... Sur Dune, il y a des êtres vivants. Sur Dune, il y a du sable, il y a l'atmosphère. On a même la composition atmosphérique. Eh bien, on peut jouer, nous aussi, au jeu de... Et qu'est-ce qui se serait passé si vraiment cette planète était autour de Canopus? Sans doute a-t-elle été déjà transformée pour être dans l'état où elle est. Et les Fremen, dont il est question qui sont au cœur de l'intrigue de Dune, cherchent aussi d'ailleurs à transformer la planète, on pourrait dire à la terraformer ou à faire de la géo-ingénierie, de sorte qu'elle ne soit plus désertique et qu'elle puisse devenir un paradis vert.
Alors dans le film Dune de Denis Villeneuve, on voit que cette humanité qui s'est répartie sur plusieurs planètes, sur toutes les planètes, il y a le même champ de gravitation.
Oui, ça c'est pratique pour les acteurs.
Oui, c'est pratique, oui. Mais est-ce que c'est vraisemblable?
Non, bien sûr, parce que les planètes ont des tailles différentes, ont des gravités différentes. Alors, simplement, ça peut pas être une planète avec une atmosphère, ça ne peut pas être n'importe quoi. Par exemple, la planète Mars, plus petite que la Terre, 38% de la gravité de la Terre, eh bien, elle est trop faible pour retenir une atmosphère et aussi pour garder en son sein une chaleur suffisante, de sorte que ça crée le champ magnétique, que les mouvements internes créent le champ magnétique qu'on a sur Terre et qu'on ne trouve pas sur Mars ou très faiblement. Et donc du coup, une planète trop petite n'aura pas d'atmosphère, une trop grosse aura une gravité importante et potentiellement une atmosphère. Donc ça ne peut pas être non plus n'importe quelle planète si elle doit avoir une atmosphère. Sa taille n'est pas au hasard pour avoir une atmosphère.
J'ai une autre question avant de donner la parole à Vincent Montand, Roland Lehoucq. Vous parlez des voyages interplanétaires. Et donc les meilleurs navigateurs de la guilde, c'est cette organisation qui s'occupe des transports.
Exactement.
Vous dites, elle est constituée d'hommes qui peuvent plonger dans le temps pour choisir la trajectoire la plus sûre pour les plus rapides des longs courriers. Ça veut dire quoi, plonger dans le temps?
Eh bien, il faut qu'ils se jettent. L'épice est un... Alors, dans le livre de Frank Herbert, l'épice est indispensable au voyage interstellaire. Mmh. Et elle donne aussi le don de prescience. Et donc, d'une certaine façon... On pourrait imaginer que cette capacité-là est utilisée par les navigateurs de la guilde pour plonger dans le temps, pour anticiper dans l'espace-temps la trajectoire du vaisseau qu'ils pilotent, de sorte qu'ils évitent les écueils de tomber, de croiser une planète, de croiser une étoile, enfin bref, d'être dans des méandres qui obéreraient leur voyage.
Il est dit dans le roman qu'ils peuvent voyager sans se déplacer, en déformant l'espace.
Alors ça, c'est pas dans le roman, c'est dans le film de Lynch, le film de David Lynch de 1984. Au début, la princesse Irulan, qui est un personnage aussi important de l'œuvre, elle explique que l'épice en fait permet aux navigateurs de déformer l'espace-temps. Donc littéralement, en pliant l'espace-temps, en contractant l'espace-temps, de gagner de la distance. Ah voilà, là du coup, c'est intéressant parce que ça ressemble beaucoup à l'espace-temps, le mollusque élastique, comme disait Einstein, le mollusque élastique de l'espace-temps que l'on pourrait éventuellement déformer. Certains se sont plus tout a imaginé ça, des physiciens, notamment un physicien mexicain, Miguel Alcubierre, qui a imaginé qu'on puisse déformer l'espace-temps pour voyager. Alors, il y a eu toute
une discussion. Il avait fumé un peu d'épices.
Oui, lui, il avait fumé un peu d'épices, mais c'était fondé sur la relativité générale, une théorie de la gravitation d'Einstein qui est tout à fait fonctionnelle et qui est vérifiée dans ses moindres détails maintenant.
On peut en fait diminuer la distance en parcourant.
En contractant l'espace. Exactement. C'est pensable à défaut d'être réalisable en pratique, évidemment.
Vincent Bontemps, vous êtes présenté comme philosophe des techniques, mais est-ce que vous pouvez me dire, en résumé, ce que raconte Dune, si c'est possible ? Comment est-ce que vous lisez ce roman ?
Vous en avez dit déjà un peu, vous avez placé le cadre général. Alors, sans spoiler, on peut dire que c'est une intrigue cosmopolitique autour du contrôle de l'épice, avec plusieurs maisons, cet empire qui se passe dans 10 000 ans, cet empire galactique, à une structure qui nous semble féodale, c'est ce qu'on en devine, et il y a une rivalité entre deux grandes maisons, et l'une d'entre elles, celle des Harkonnen, vient de se voir démettre de la gestion de Dune, d'Arrakis, qui est une source de revenus extrêmement importante sur la ressource la plus stratégique de l'Empire, et une autre maison, qui est la maison des Atreides, vient d'être nommée. Et donc il va y avoir une intrigue qui est reprise avec un deuxième enjeu extrêmement important, c'est que l'épice est produite dans le désert, et ce désert est occupé quand même par une forme de vie qui semble indigène, qui est une forme de vie animale, qui sont les vers des sables. Mais les vers des sables sont impliqués dans la production du cycle de l'épice. Donc l'idée de les éradiquer n'est pas bonne si on veut conserver l'épice. Et en même temps, les populations locales ont un désir légitime de transformer le climat et le paysage d'Arrakis afin de rendre ça plus vivable. Mais ce qui se fera au détriment des zones de désert qui précisément sont celles où vivent les vers et donc celles qui produisent l'épice. Donc il y a une double conflictualité, une conflictualité interne à l'Empire de rapport de force entre les maisons féodales dans lesquelles l'Empereur intervient aussi et une autre qui est par rapport au désir d'autodétermination, on dirait, d'indépendance d'une population locale oppressée et qui, elle, est prise dans cette autre contradiction entre le fait que si cette planète est importante, c'est parce qu'elle produit l'épice, mais si les gens qui l'habitent veulent améliorer leurs conditions de vie, ils doivent y renoncer en particulier. Ce qui est l'aspect très intéressant de Dune, c'est à la fois tout cet univers très cohérent où il n'y a pas que de la technologie, mais la culture qui est très profondément modifiée, et deuxièmement, cette projection dans un enjeu techno-écologique qui résonne énormément avec notre milieu actuel.
Mais l'épice, elle est aussi surnommée le mélange. Est-ce qu'on peut la comprendre comme un mélange du pétrole et du LSD ?
Il y a de ça. Il faudrait rajouter une série de choses comme les antibiotiques ou tout ce qui a contribué à allonger notre durée de vie. Donc, en effet, c'est une substance qui, par bien des côtés, modifie la condition humaine et qui a cette importance stratégique d'avoir modifié les rapports de force comme le pétrole l'a fait chez nous en 2 siècles et qui déclenche donc les passions et les passions géopolitiques, je veux dire. Mais à côté de ça, elle a cette sorte. Bon, ce qui est très connu, c'est qu'elle change la couleur des yeux. Je veux dire, pas seulement de l'iris, mais le blanc des yeux devient bleu et qu'elle est mutagène. Donc ceux qui en prennent à très haute dose, comme les navigateurs, on ne sait pas trop à quoi ils ressemblent parce qu'ils sont plongés dans un bain d'épices orange en permanence. Et tout ce qu'on sait, c'est qu'ils n'ont plus pas forcément une forme humaine.
Alors j'ai appris en lisant cet ouvrage collectif dirigé par Roland Lehoucq que le terme science-fiction date de 1929.
Oui.
Il a été proposé par Hugo Gernsback,
oui,
qui la définissait comme étant un genre littéraire qui permet de mettre en scène les applications futures du progrès scientifique.
Oui.
Est-ce que cette définition vous semble juste ? Est-ce qu'elle correspond, dans le cas que nous discutons, à ce roman Dune ?
De façon paradoxale, parce que il y a certes des choses qui ressemblent à des évolutions technologiques comme des ceintures anti-gravité, le voyage intersidéral, une série de choses comme ça. Et à côté de ça, on peut dire que ce qui singularise Frank Herbert à son époque, c'est de ne pas croire au progrès. Et donc il y a plusieurs citations de ce qui est le recueil spirituel de ce monde qui s'appelle la Bible catholique orange et qui par exemple traite l'idée de progrès comme une simple illusion destinée à nous protéger de la crainte des ténèbres du futur. Et donc Frank Herbert a placé ceci qui est très original dans son univers par exemple, qui est que on est 10 000 ans après un événement, une rupture qui s'est produite qui s'appelle le djihad butlerien. On remarque là encore la prédominance du vocabulaire vocabulaire d'origine arabe dans beaucoup de termes de ce futur-là. Et le djihad bactérien consistait à une guerre entre les pro-machinistes et les anti-machinistes à une époque où les intelligences artificielles avaient aliéné l'humanité et qui a été remportée par les anti-machinistes. Et donc on vit dans un univers qui, depuis 10 000 ans, a produit un tabou sur une partie de la robotique en fait, et de l'algorithmique.
C'était un décret religieux.
Ça a été une guerre qui a été suivie par l'adoption raisonnée par la civilisation humaine galactique, en effet, d'un tabou religieux.
Et c'est pourquoi dans Dune, on ne voit pas d'ordinateur, il n'y a pas de machine pensante.
Alors, il n'y a pas de machine pensante et il n'y a pas de... Le tabou, hein, comme dans les tables de la loi, il y a une maxime qui est « tu ne feras pas de machine semblable à l'esprit humain ». Et donc, il y a un certain nombre de choses qui n'existent pas dans Dune, ce qui explique par un peu une sorte de vase communicant qu'il y a des personnages qu'on appelle les mentates, c'est-à-dire que ne pouvant progresser dans cette voie technologique, l'humanité est dite avoir s'être perfectionnée sous d'autres plans, comme par exemple avoir créé des êtres humains qui sont fonctionnalisés, hein, qui sont rendus machines, parce qu'ils deviennent des sortes de super calculateurs, super stratèges, maîtres assassins, et qu'on appelle les mentates. Voilà, il y a aussi une voie de progrès eugéniste avec les Bene Gesserit, dont ma collègue va nous entretenir davantage, et puis les navigateurs eux-mêmes qui même mutent dans leur corps eux pour assurer les fonctions de transport.
Donc il n'y a pas d'aide par des machines pensantes ou intelligentes, mais il y a un dopage chimique en quelque sorte par l'épice. Roland Lehoucq, est-ce que le chimiste qui ne sommeille pas en vous peut nous dire Avec quelle probabilité une telle substance pourrait apparaître, être fabriquée sur d'autres terres?
Alors, je ne saurais dire la probabilité en la chiffrant. Simplement, dans le livre, effectivement, Fabrice Chemla, un chimiste, lui, organicien, qui s'est penché attentivement
oui,
sur
les pistes. Oui, c'est un chapitre que j'ai eu du mal à lire parce qu'il y a beaucoup de termes de chimie.
Ah oui, il y a beaucoup
mais
de chimie.
Mais il répond que oui, c'est possible.
Exactement, ça évoque, bien sûr, à la fois... tant dans les couleurs, tant dans la façon dont on parle de l'épice dans le roman, tant dans ses effets, ça évoque un certain nombre de substances psychoactives, de substances réelles, et ça peut, et quand on parle de mélange, on pourrait imaginer un mélange de ces substances réelles, psychoactives, qui donnent quelque chose qui ressemble aux effets de l'épice. Bon, alors après, la préscience, ça va pas être facile malgré tout, parce que là, il y a la physique qui arrive aussi, toujours fâcheuse, et qui nous dit que c'est pas facile d'avoir de l'information sur le futur et de l'anticiper pour le modifier. Mais il y a effectivement, du côté de la chimie, un possible autour de l'épice.
Vincent Bontemps, dans votre chapitre, dans lequel vous parlez d'innovation, dans Dune, et d'innovation en général, vous citez évidemment le philosophe dont vous connaissez parfaitement l'œuvre, qui est Gilbert Simondon, et vous écrivez cette phrase qui m'a laissé perplexe. Vous dites « Une machine ne peut pas être à la fois infernale et intelligente ».
Oui, alors ça c'est une conviction profonde de Gilbert Simondon, qui est que de deux choses l'une, ou bien vous avez une machine dont le programme est fermé, c'est-à-dire il n'intègre plus d'autres informations que celles dont il dispose au départ, auquel cas c'est bien une machine infernale, on est d'accord, mais précisément par le fait même qu'elle ne prélève pas d'informations sur son environnement, elle ne peut pas être très intelligente, d'accord, elle ne peut avoir que les réponses pré-programmée aux stimuli qu'elle recevra de l'extérieur. Dès qu'on invente une machine qui est intelligente, certes, on peut l'avoir finalisée de façon extrêmement désagréable, c'est-à-dire pour supprimer des formes de vie, mais un contact informationnel devient possible avec elle. Et donc, au pire, ça vous offre des possibilités de hacking ou de choses comme ça. Du moment qu'on peut apprendre quelque chose à la machine, elle n'est plus vraiment infernale, d'où une sorte de contradiction entre la machine infernale et l'intelligence artificielle, qui est une des raisons pour lesquelles Simondon dit qu'il ne peut pas y avoir de mythe de la révolte des machines, hein, n'est qu'un mythe, et parce qu'une machine, de toute façon, se dérègle, elle ne se révolte pas, elle n'a pas d'éthique personnelle.
Joëlle Vintreler, je vous ai présenté comme écrivaine, enfin autrice de science-fiction. De quoi parlez-vous dans le MOOC auquel vous avez participé, consacré à Dune?
Alors, donc,
la place des femmes?
Non, je ne parle pas de la place des femmes, je parle très précisément de Jessica.
Dame Jessica.
Voilà, de Dame Jessica. Voilà. Donc, j'ai intitulé d'ailleurs mon papier Jessica de l'art étrange, puisque effectivement, quand elle arrive chez les Fremen, c'est avec cet art étrange qu'elle se fait accepter.
Alors, qui est-elle? Il faut la présenter pour ceux qui n'ont pas lu le livre et qui n'ont pas vu le film.
Alors, donc, Jessica est la mère de Paul Atreides, donc, qui est ce fameux messie qu'attendent les Fremen. et qui attendent aussi les Bene Gesserit, donc ces sœurs du Bene Gesserit. Mais bon, elles ont été, Jessica finalement, a désobéi à ces sœurs du Bene Gesserit, puisque ce que montre aussi Dune, c'est finalement l'eugénisme et les dangers de l'eugénisme finalement. Je crois que mes collègues seront d'accord avec cette dénonciation d'Herbert dans ce livre. C'est que finalement, en contrôlant complètement la reproduction des sœurs,
Mutations génétiques.
Oui, pas forcément des mutations, non, juste des croisements, comme on croise des plantes pour telle plante avec telle plante pour obtenir une meilleure plante. Donc, et ce qui implique éventuellement de croiser des membres de la même famille. Ce qui devait être le cas pour Jessica. Donc elle devait donner naissance à une fille et cette fille elle-même se serait croisée avec un garçon né chez les Harkonnen de façon à donner ce fameux messie que ses sœurs attendent depuis le début de leur manipulation. Et en fait, Jessica a désobéi. Elle a désobéi par amour. Elle a voulu donner un enfant mâle, un garçon au duc Leto. Et ce faisant, elle avait vraisemblablement une petite idée derrière la tête, enfin bon, on peut le penser, et de se dire pourquoi moi je ne serais pas capable de donner naissance au Kwisatz Haderach, ce fameux être extraordinaire que ses sœurs attendent depuis le début de ces croisements et de ces manipulations génétiques. Voilà. Enfin, qui ne sont pas tout à fait les manipulations génétiques, on ne peut pas dire ça vraiment.
Elles sont capables de choisir le sexe de leur, enfant, donc ça veut dire qu'elles ont une action sur le développement interne.
Tout
quand
à
même.
Fait. Mais alors, donc, elles sont élevées et de façon à maîtriser tellement leur corps qu'elles sont capables, effectivement, de choisir le sexe de l'enfant.
Mais quelle est la raison de cette maîtrise de ces croisements, quel est le but?
Alors le but effectivement, c'est de donner naissance à cet être un petit peu suprême. C'est quand même, on peut appeler ça comme
c'est
ça.
Accoucher de Dieu.
Oui, dans un sens, c'est vraisemblablement accoucher de Dieu, c'est-à-dire accoucher d'une personne, enfin d'un garçon. En plus, ça doit être un garçon, oui. Comme par hasard. Bon. Donc accoucher d'un garçon qui aura la préscience ultime, c'est-à-dire qui sera capable à la fois de maîtriser le passé et de maîtriser le futur. Donc c'est ça l'idée, finalement, depuis qu'elles ont commencé ces croisements. Donc c'est effectivement assez ambitieux et sujet à caution.
Vincent Bontemps, comment est-ce qu'on peut penser l'innovation dans le cadre de Dune, et est-ce que la lecture de Gilbert Simondon aide à le faire?
Oui, parce que Dune, c'est un autre monde, et donc c'est un milieu associé, comme dit Simondon, et qu'on doit penser les technologies en fonction du milieu dans lequel elles sont intégrées. Donc comme c'est un milieu associé extrêmement hostile, il y a des technologies d'adaptation, comme le fameux distil, qui est le costume que portent les Fremen et tous les gens qui veulent survivre sur Dune.
Oui, comment ça marche, le distil?
Alors, Roland a écrit un chapitre dessus pour expliquer qu'en fait, ça marche pas. Mais
on a l'impression que parfois, les auteurs de ce livres ont carburé à l'épice. Hein.
Oui, bien sûr. Ben, on en a partagé un peu, mais ça, c'est grâce aux chimistes, il nous en a fourni un peu.
Donc le distil, il s'agit de récupérer
Il s'agit de récupérer toute l'eau exudée par le corps, quelle que soit la façon, donc la sueur, l'urine, y compris dans les matières fécales, et de la purifier pour pouvoir ensuite la reprendre. La difficulté de fond de cette histoire, c'est que si on sue, c'est pour une raison, c'est que justement on veut une régulation thermique de son corps, et que donc si on récupère, on perd cette possibilité de perdre de la chaleur en évaporant l'eau, et que par conséquent la personne va bouillir dans son distil et mourir encore plus vite. Donc ça va pas marcher mais c'est une technologie d'adaptation, mais c'est pas la seule, puisque comme je vous l'ai dit, les Fremen, eux, rêvent de technologie et d'innovation, de transformation. Ils veulent changer leur milieu. Et puis je l'ai mentionné aussi, peut-être le génie le plus grand de Herbert, c'est d'avoir pensé des alternatives en faisant de la suppression, c'est-à-dire en nous disant il n'y a pas dans ce monde d'intelligence artificielle et de robotique poussée, et donc du coup d'inventer d'autres solutions. Et ça, c'est original, c'est une bonne voie qui peut être, pour avoir des idées, si vous voulez, innovantes, il est intéressant par moment de se placer dans un cas où on se passe d'autres technologies.
Mais dans Dune, je parle du roman, quelqu'un, je ne sais pas qui, dit le concept de progrès agit comme un mécanisme de protection destiné à nous isoler des terreurs de l'avenir. Vous l'avez rappelé tout à l'heure.
Oui.
Est-ce que ça vous semble une bonne définition? Croire au progrès, ça permet de ne plus avoir peur ou d'avoir moins peur?
En tout cas, ça donne une assise dans le temps. Je dirais que Herbert s'est quand même pris dans un certain nombre de contradictions et qui amène à une conception assez pessimiste et un peu réactionnaire des relations entre la technologie et la culture. C'est-à-dire, autant vous trouveriez chez mon philosophe de prédilection, Gilbert Simondon, l'ambition de transformer la culture pour la remettre au niveau du développement technologique et scientifique et donc, du coup, pouvoir avoir des délibérations politiques intéressantes, adéquates et contrôler ça. Autant chez Herbert, l'idée, et ça se voit dans un autre de ces cycles qui s'appelle de façon assez symptomatique, le cycle des saboteurs, l'idée est plutôt qu'il faudrait saboter le progrès technologique et scientifique pour laisser à l'humanité le temps de se développer et de maturer spirituellement et culturellement de façon à maintenir cet équilibre. C'est assez réactionnaire, évidemment, comme pente de réflexion.
Alors, si on considère Dune non pas comme de la science-fiction, mais comme, ainsi que je le disais dans le titre, comme une préfiguration, à votre avis, quelles leçons pour nous aujourd'hui pouvons-nous en tirer? Sur le plan écologique, sur le plan politique, sur le plan des mœurs, sur le plan de la drogue, sur le plan de la géopolitique.
C'était un roman tout à fait prophétique par rapport à l'écologie, justement, puisque...
Est-ce qu'on parlait déjà d'écologie comme aujourd'hui en 1965, date à laquelle le roman a été publié?
Ben non, évidemment que non, puisque... Il y a deux dates importantes quand même dans l'histoire, enfin dans la prise de conscience de l'action de l'humanité sur son environnement. D'abord, on le comprend depuis longtemps. Dès la révolution industrielle, on comprend que l'exploitation de la houille, du charbon en général et de la houille en particulier, a des conséquences dramatiques pour les ouvriers qui travaillent dans les mines, pour les populations qui vivent dans les usines qui utilisent de la houille, et avec une houille qui est appelée à disparaître, puisqu'on les appelait aussi les forêts intérieures. On avait bien compris que ce charbon venait d'une biomasse qui a été transformée au fil des millions d'années par des actions géologiques. Donc, il y avait déjà cette idée-là était déjà présente, et même l'idée, dès la fin du 19e siècle, que mettre du CO2 dans l'atmosphère modifiait la composition atmosphérique en gaz carbonique et en gaz à effet de serre en général, ça modifie l'équilibre énergétique de la Terre. Mais dans les années 60, fin des années 60, 1969, il y a la publication de La bombe P, La bombe population de Paul Ehrlich. Et 1972, il y a la publication du rapport du Club de Rome, qui nous explique que l'effondrement auquel est promis l'humanité, si elle continue sur le chemin productiviste et consumériste qu'elle suit. Donc en 65, ces idées ont déjà été exprimées, mais n'ont pas la force et la prégnance qu'on leur connaîtra quelques années plus tard et qu'on leur connaît maintenant, alors que ça fait plus de 40 ans maintenant, largement plus de 40 ans, qu'elles sont rabattues, ressassées, expliquées. Donc de ce point de vue-là, la fiction écologique ou les éco-fictions, ou la science-fiction écologique n'est pas encore complètement développée dans les années 65, et on peut de ce point de vue-là juger Herbert comme une sorte de précurseur. Plus tard, après le rapport du Club de Rome et le livre de Paul Ehrlich, dans les 72, 75, vont sortir un ensemble de romans, dont ceux de John Brunner, un auteur de science-fiction britannique, qui est tous à Zanzibar, et puis Le Troupeau aveugle. Voilà deux romans très emblématiques de cette question population versus environnement et action humaine.
Mais dans le livre que vous avez dirigé, il y a un article de Christopher Robinson, ou Robinson, je ne sais pas comment
Robinson,
il s'appelle, Robinson,
ouais.
Qui fait écho au temps présent, me semble-t-il. Il dit: en temps de crise, les masses prennent conscience qu'elles ne peuvent faire refluer les vagues du changement, et dans la peur et l'anxiété, elles se tournent vers des sauveurs autoproclamés dans la conviction que ces individus extraordinaires possèdent le pouvoir de repousser la déferlante.
Oui,
c'est bizarre
arrive.
De lire ça, non?
Oui, ça arrive aussi. Regardez, je sais pas, l'élection présidentielle qui se présente, là, il y a l'air d'avoir des gens qui ont l'air d'avoir la solution. Hein. Donc, on peut en discuter de cette solution. Elle est certainement très inadaptée. Mais dans le cas de Frank Herbert, la partie écologique, une chose qu'il dit qui est intéressante, une citation du roman, c'est elle est mise dans la bouche du planétologiste impérial qui est sur Dune, qui va avec les Fremen. Tente de modifier les conditions climatiques sur Dune pour les rendre plus clémentes, il nous dit que la plus haute fonction de l'écologie, c'est la compréhension des conséquences. Et ça, je trouve que c'est une phrase intéressante, c'est-à-dire comprendre les conséquences de ce que nous faisons et les anticiper à ce point qu'éventuellement, on décide de ne pas mener l'action parce que les conséquences seront délétères pour l'humanité ou pour son environnement, ou souvent les deux à la fois.
Joël Vintreberg, quelle est votre leçon.
Sur Dune ou sur...
Pour nous aujourd'hui.
Nous aujourd'hui, oh là là.
Si on suppose que c'est une préfiguration.
Je pense que, bon, il y avait effectivement beaucoup de préfigurations dans ce roman et pas mal de cris d'alerte parce que donc on voit effectivement comment un mouvement peut dégénérer complètement puisque les Fremen, on le sait par la suite des romans, vont déferler sur l'univers et donc se conduire... Comme on a l'impression, il y a vraiment une convergence avec ce qui se passe aujourd'hui, avec l'idée du djihad, ce qui est totalement inattendu, évidemment,
c'est
par rapport
terme,
à ce que Herbert avait écrit. Mais donc, cette convergence est très troublante. Et puis, bon, avec tout ce qui se passe avec le transhumanisme, avec les labos, le Alt Lab de Bezos, avec le labo de Google aussi, avec toute cette volonté d'arriver finalement à cette immortalité, c'est l'idée, c'est de manipuler les cellules de façon à arriver à cette immortalité. Donc l'épice finalement, elle est toujours l'élément qu'on recherche et qu'on finira peut-être par trouver.
Vincent Montand, vous faites dans votre article consacré à l'innovation dans Dune, vous faites l'éloge de ce que vous appelez ou que quelqu'un appelle l'instinct artisan. Est-ce que c'est ce que disait Roland Lehoucq à l'instant, à savoir faire attention aux conséquences de nos actions ?
Pas exactement, mais ça vient avec. C'était un auteur américain qui s'appelle Thorsten Veblen et qui était une sorte de Marx américain de fin 19e, début 20e, d'origine danoise. Et il a écrit un livre qui s'appelle « La théorie de la classe de loisirs » qui est toujours aussi décapant à lire de nos jours, dans lequel il présente une fresque du développement de l'humanité tirée essentiellement par deux instincts. Un instinct qu'il appelle l'instinct artisan, qui est celui du travail bien fait, d'éviter le gâchis, la destruction inutile, et qui est celui que mettent en œuvre les hommes quand ils collaborent, essentiellement les femmes d'ailleurs, à le maintien et la survie de la communauté. Et à côté de ça, et les artisans, en tant que morale professionnelle. Et face à ça, il y a l'instinct prédateur. L'instinct prédateur, c'est celui qui fait dire que si quelque chose doit être fait, ça mérite d'être fait par quelqu'un d'autre sous la menace d'une arme. Donc c'est celui des gens qui s'approprient par la violence et la puissance, en fait, le travail des autres et qui vivent comme des parasites. Alors je vous laisse découvrir qui sont les parasites aux yeux de Veblen. La liste est longue et assez rigolote. Donc, contrairement à Marx, la frontière passe pas entre les travailleurs et les patrons. Les patrons font partie des gens qui ne sont pas des parasites, ils travaillent vraiment. Mais en revanche, les avocats, d'autres gens, les financiers, les banquiers, toute une série de gens sont placés devant le poteau du jugement de Veblen. Et donc, c'est une façon qui pourrait être prise par toute une lignée de gens qui font de l'éthique de la technologie, et Simondon pourrait se reconnaître là-dedans. Du moment que vous travaillez, que vous essayez de faire le mieux et d'économiser l'énergie, la matière, l'information et d'être économe, en fait, vous êtes du côté du bien. Et à partir du moment où vous êtes dans une recherche constante de la puissance, du profit ou de toute autre valeur qui finalement vous empêche de chercher la juste mesure, vous êtes du côté du mal. Vous êtes des parasites ou des prédateurs. Et donc c'est cette idée-là. Moi je tiendrais comme leçon dans le droit fil de ça que Herbert a le mérite de montrer qu'une innovation qui vaut vraiment le coup, comme celle de transformer une planète, ça prend du temps. Et que donc on doit cesser justement de croire dans les hommes, les grands hommes et les hommes providentiels, et les gestes magiques et les coups de menton qui changeraient radicalement la situation, et plus faire confiance au travail de fourmis, de collaboration et de structuration des efforts collectifs, et que c'est là que se trouvent les véritables ressources.
Mais est-ce qu'on peut considérer que les Fremen constituent un modèle de société, disons, durable ?
Alors, il y a un mythe, hein, on pourrait le chercher dans l'orientalisme. Les Fremen font partie d'une longue tradition qui remonte à Virgile avec les Germains, où on est en train de mythifier une civilisation qui serait restée plus rude, plus intègre, plus vertueuse. Si vous voulez, les Latins pensaient ça des Germains, et un certain nombre d'explorateurs européens, des peuplades qu'ils ont. Et d'ailleurs, l'Occident a pu porter sur l'Orient aussi ce regard-là, et les Fremen correspondent un peu à cet archétype, hein, d'une société rude, féroce, mais avec des vraies valeurs, des gens... voilà. Et donc, de ce côté-là, ça rentre un peu dans le cadre de l'orientalisme.
Un des personnages dit, et souvenez-vous bien que la croissance elle-même peut introduire des conditions défavorables si on ne la traite pas avec beaucoup de prudence.
Oui, mais il y a un côté cybernétique qui est, vous pouvez le trouver naïf, mais en fait, c'est pas si mauvais que ça de rendre de tout le temps réintégrer et l'écologie et le fonctionnement de la société dans cette idée du feedback, dans cette société que chacun de nos actes devrait prendre, voilà, intégrer par avance ses conséquences et donc se réintroduire. C'est une obsession, à mon avis, vertueuse dans la philosophie qui transparaît dans les romans de Herbert.
Mais est-ce qu'on peut dire que cette écologie-là est basée d'abord sur une planétologie? C'est les différences entre les planètes qui justifient les comportements qu'on a sur chacune d'entre elles.
Ben non, puisque la planète, vous êtes dans cet environnement, de certaine façon, et vous devez vivre dans cet environnement, et le modifier de manière trop radicale peut modifier vos conditions de vie au point de rendre la vie elle-même, votre vie sur cette planète, impossible.
Si l'humanité est répartie sur plusieurs planètes, il y a des possibilités de repli.
Oui, alors si...
Que nous n'avons pas, je pense.
Voilà, exactement. Si l'humanité est répartie sur plusieurs planètes, effectivement... Pour nous, personnellement, ça n'est pas le cas et il n'y a pas de planète B. D'ailleurs, dans le système solaire, il n'y a pas de planète B. Et en dehors du système solaire, s'il y en a une, elle est si lointaine qu'elle est probablement définitivement hors d'accès.
Donc, l'humanité ne pourra pas plier l'espace.
Oui, il va falloir qu'elle elle ne pourra pas plier bagages non plus. Elle semble de rester là où elle est. Elle est sur l'unique planète qui est habitable pour elle pour l'instant.
Est-ce qu'à votre avis, là je pose la question à n'importe lequel de vous trois qui voudra répondre, est-ce que la façon de lire Dune aujourd'hui est très différente de celle qu'on pouvait avoir au moment de sa publication en 1965? Il a été publié, je crois, chez un éditeur qui était plutôt spécialiste de guides de réparation automobile, c'est ça, Roland Luc?
Oui, c'est ça.
Joël Vintrebert, pardon.
Je pense qu'on le lit d'une façon évidemment différente, parce que au départ... Donc quand Dune a été publié, il y avait quand même beaucoup, beaucoup d'éléments novateurs. On n'a pas dit une chose sur les Fremen, c'est que finalement, ils sont complètement manipulés. Donc, ils sont manipulés par le Bene Gesserit, puisque effectivement, quand Paul arrive, c'est le Messie qu'ils attendaient. Comment pouvait-il attendre ce Messie si ce n'est par cette manipulation? D'ailleurs, on le saura quand Jessica absorbe l'esprit de la révérende mère. Et en fait, oui, je me suis perdue en cours de route.
Vous n'êtes pas la seule.
Oui, la relecture. Donc la relecture, effectivement, est forcément différente dans la mesure où on a progressé, c'est tout. Donc sur un plan écologique, sur un plan politique, sur un plan sociologique, on ne peut plus lire d'une façon naïve, enfin, comme moi je l'ai lu à l'époque quand j'ai commencé à lire Dune et ses suites, et on ne peut pas le lire d'une façon aussi naïve aujourd'hui, en tout cas quand on a lu d'autres choses.
Il y a aussi le fait que c'est une œuvre, là elle a une certaine actualité grâce au film de Villeneuve, et donc elle a été revisitée plusieurs fois. Et donc on a maintenant le bénéfice aussi d'une déclinaison d'adaptation différente. Dans mon sens, je vous ai déjà dit quel est le point commun, c'est qu'ils veulent pas d'arabes dans le futur. Mais à part ça, il y a quand même, ça nous donne le moyen de réfléchir sur quels sont les aspects qui à telle époque sont mis en avant. Voilà. Et donc le film de Villeneuve, pour l'instant, a fait un certain nombre de choix esthétiques. Je trouve assez heureux personnellement. Et il y a des choses sur lesquelles on dirait que c'est encore plus d'actualité qu'avant. Donc oui. Ça a très bien vieilli sur l'écologie, ça a un peu moins bien vieilli sur le féminisme, et ça reste pas inintéressant. Quand on voit le tabou que je viens d'évoquer par rapport aux adaptations hollywoodiennes, ça reste intéressant politiquement. C'est-à-dire les Américains veulent toujours pas voir ce que ça veut dire sur l'autodétermination des peuples. Et du fait qu'on ne doit pas aller coloniser les gens. C'est quand même ça, qui est la leçon pour l'instant qui reste tabou dans les adaptations.
Oui. Que ça n'est pas si bien vieilli sur le plan du féministe, j'exclus quand même le personnage de Jessica.
Bien sûr.
Voilà. Bon, oui. Effectivement, les sœurs du Bene Gesserit, on voit que, donc finalement, à la fin du roman, et puis j'imagine que Villeneuve les montrera comme ça aussi, c'est un peu des méchantes sorcières, quoi. Voilà.
Et elles sont pas très fortes, en fait. Elles sont pas très malines.
Non, finalement, elles se font rouler dans la farine, parce que même par Paul, par Alia, la sœur de Paul, dont on verra plus tard à quel point elle devient un personnage maléfique, justement.
Voilà, je suis désolé, on n'a pas pris d'épices, on peut pas dilater le temps, c'est la fin.
Dommage.
Je voudrais quand même vous lire le début du poème de Victor Hugo qui s'appelle « Paroles sur la dune ». pense que vous le connaissez. Maintenant que mon temps décroît comme un flambeau, que mes tâches sont terminées, maintenant que voici que je touche au tombeau par les deuils et par les années, et qu'au fond de ce ciel que mon essor rêva, je vois fuir vers l'ombre entraînée, comme le tourbillon du passé qui s'en va, tant de belles heures sonnées. Voilà, l'heure a sonné, je suis désolé, je vous remercie en tout cas.
Merci
pour votre participation. C'était Science en question par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique une très belle équipe constituée de Guillaume Rialan, d'Hélène Langlois, de Virginie Lorda et de Tanguy Lecorneau. Et à la réalisation, bien sûr, Luc-Jean Reynaud.